18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir, vous le savez, de 18h à 19h30. Et nous sommes ensemble, ensemble, pour commenter, analyser, décrypter l'actualité. Vous le savez, c'est toujours un plaisir. Il y a votre espace tout à l'heure, à partir de 18h15, 18h20, où j'ouvrirai l'antenne pour parler, vous savez quoi, des relations Algérie, Maroc, France. Est-ce que ça rejaillit, vous, au sein de votre couple, puisque aujourd'hui, il n'y en a pas un que je ne connaisse pas dans mon entourage qui n'est pas marié, soit un Algérien, soit une Marocaine, bref, des couples qui sont mixtes et qui vivent parfois cela de loin. Évidemment, ces relations exécrables qui parfois peuvent provoquer des petites étincelles. Et on en parlera tout à l'heure. Et on parlera aussi, vous savez quoi, au menu ? Eh bien, de direction Sartrouville. Sartrouville, où on va retrouver le manager général, Ismaël Badawi, avec une série, vous savez quoi, d'événements. C'est tout simplement, eh bien, l'espérance sportive qui se retrouve confrontée, eh bien, à une gestion. On va en parler tout à l'heure, puisque le manager général sera avec nous. Et puis, le face-à-face, vous le savez, c'est des points de vue qui confrontent leur regard autour de 3-4 sujets qui ont retenu notre attention. La menace de dissolution, Emmanuel Macron, qui, évidemment, le sujet est toujours d'actualité. La grève attendue du 10 novembre, chers amis. Oui. À quoi peut-on, à quelle sauce allons-nous nous retrouver, justement, jeudi prochain? Et puis, la COP27. Finalement, on parle de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, pardon. On parle de la crise d'énergie. On parle de la crise sociale avec le Covid. Et si la plus grosse crise n'était pas le climat et le réchauffement climatique? C'est la question qu'on va poser. Effectivement, ça va être quand même une clochette. Et puis la Coupe du Monde et le Qatar, Vinci qui est visé, évidemment, on en parle tout à l'heure. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant Les Informés et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et nous sommes avec Ismaël Badawi, l'interview du jour.
Les informés. L'interview.
C'est avec Ismaël Badawi qui est le manager général de l'association L'Espérance Sportive, qui est un club de foot. Bonjour mon cher manager général Ismaël Badawi.
Bonjour Adil, merci de l'invitation.
Mais c'est normal. Alors, je vois que vous faites l'actualité depuis maintenant plusieurs jours sur la ville de Sartrouville. Les parents des jeunes, justement, qui se mobilisent en permanence, qui continuent de vous soutenir. On va en parler d'abord pour que les auditeurs qui nous écoutent partout en France, que se passe-t-il au sein de cette association? C'est un club de foot, Espérance Sportive. Que se passe-t-il précisément? Pour quelle raison il y a une colère, mon cher Ismaël Badawi, vous qui êtes manager général?
Vous savez, on a un très très gros problème avec la municipalité qui prend des décisions politiques selon des critères qui nous semblent un peu fallacieux aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on nous a fermé d'une manière brutale le seul lieu de vie qui est le bureau administratif du club. C'est le lieu où tout le monde se rencontre, les enfants, les parents, les adversaires, les officiels. Et ce lieu-là, on nous l'a interdit aujourd'hui. On nous l'a interdit d'accès pour des raisons obscures, parce qu'on n'a pas les vraies raisons. Et en fait, on s'attaque constamment à notre club de foot qui est un club de foot dans toutes les villes. Vous savez que ça a une place importante et particulière dans une ville. Et aujourd'hui, on s'attaque directement à nous d'une manière frontale, sans concertation, sans rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça pose d'énormes difficultés. Et ce qui est extraordinaire, parce que j'étais venu en parler ce sujet il y a quelques semaines, chez Beurre FM, et c'est vous qui avez, d'ailleurs je vous remercie, qui avez révélé cette histoire au grand jour. Et entre temps il s'est passé une chose assez incroyable que je n'ai jamais vu moi de ma carrière de footballeur. C'est qu'il y a un collectif des parents qui s'est créé en soutien envers le club. Et ce collectif a organisé une manifestation contre les élus au sport et contre la municipalité samedi.
Pour dire quoi précisément, parce que j'ai vu moi les différentes vidéos, les images, ils sont en colère.
Ils sont très en colère, ils sont très remontés. Pourquoi? Pour une raison très simple. Ils voient leurs enfants épanouis dans le club de foot, heureux de venir à l'entraînement, heureux de venir s'entraîner, heureux avec leurs éducateurs. Ils voient leurs parents, les investissements qui sont faits par les éducateurs, les responsables, dont moi en tant que manager général qui assure la politique sportive du club. Ils sont très heureux, ils sont épanouis dans leur club de foot, leurs enfants sont épanouis. Vous voulez quoi de plus? On s'occupe des enfants. Les enfants, quand ils sont avec nous, ou en tout cas les ados, ils ne sont pas dans la rue. On assure un lien
notamment
social.
Notamment, je prends un petit extrait d'un père d'un enfant, justement, qui disait que cette éviction, il la conteste. Que, justement, vous le disiez vous-même, Ismaël Badawi, cet espace est un lieu de rencontre de tout le monde, de tous, et que les parents des joueurs, justement, favorisent cette cohésion. Cette cohésion, ce que vous avez appelé vous-même, hein, avec vos mots, cette cohésion d'équipe. Alors, oui. Cet espace aujourd'hui, hein, surtout avec les difficultés liées à la crise sanitaire, il est menacé.
Il est menacé par qui ? Fermé.
Il est fermé, oui. Fermé, mais fermé par qui ? Par la mairie ? Par qui précisément ?
Par l'Héliosport, par la mairie, qui est l'Héliosport, M. Prigent, qui a fermé de manière manu militari et brutale du jour au lendemain. Mais ça a des conséquences.
Quelle est la raison évoquée, Ismaël Badawi ?
Alors, il y en a plusieurs, donc maintenant, il faut savoir c'est laquelle, parce qu'une fois, ils nous ont dit qu'ils avaient besoin de ces bureaux pour le partager avec d'autres associations parce qu'ils étaient en déficit de locaux dans la ville. Quand on leur a proposé qu'on était prêt à partager ce local avec d'autres associations, avec plaisir, ça nous permettrait de créer des liens avec d'autres associations. À ce moment-là, ils se sont retrouvés un peu bêtes. Ils nous ont dit non, on vous l'enlève, vous, c'est pas pour vous. Ensuite, ils nous ont dit parce qu'il y avait des nuisances par rapport aux voisins. Ensuite, ils nous ont dit parce qu'on a détérioré les locaux. Mais tout ça est totalement faux. En fait, ils savent plus sur quel pied danser, sur telle excuse. Mais le plus dramatique, c'est qu'ils nous enlèvent de là-bas. C'est une chose, d'une manière brutale, ça se peut contester. Mais c'est surtout le lieu où ils souhaitent nous envoyer. C'est humiliant, c'est dégradant. Vous savez, quand on fait du bon travail, qu'on reçoit les enfants, les parents, on essaie de donner de nous et beaucoup de nous pour accompagner ces enfants, peu importe leur âge, et pour dans leur passion, dans la pratique du football, et qu'ils nous envoient dans un préfabriqué, dans un parc non sécurisé, il n'y a même pas de lumière. C'est même dangereux le soir. Là, à l'heure où on parle, il fait nuit, totalement nuit, il n'y a même pas de lumière, et dans un préfabriqué qu'on a à l'entrée d'un chantier de 10 mètres carrés, c'est inadmissible, alors qu'on était dans un vrai club-bas. C'est qu'une vie, on a...
Voilà. La manifestation, et évidemment, cette colère dure depuis maintenant un peu plus de 3 semaines, me semble-t-il. Hein.
Alors, depuis le 1er octobre, ils nous ont mis dehors du jour au lendemain. Ils ont fermé, ils sont venus avec un bout de bois, c'est ridicule. Hein. Ils sont venus avec un bout de bois, ils ont fermé. Donc, depuis le 1er octobre, on n'a plus accès à la buvette. Donc on a plus de rentrée d'argent, et vous savez que les clubs amateurs, on est en déficit d'argent, on a beaucoup de mal, et la buvette, c'est une manne financière pour les clubs amateurs qui est très importante pour nous. Donc ça fait un mois qu'ils nous font perdre de l'argent. À cause d'eux, on a dû annuler les stages. Vous savez que nous, on est un des rares clubs du secteur là à réaliser pendant toutes les vacances scolaires des stages pour les enfants toute la journée, de 9h à 17h. Imaginez-vous, pendant les vacances scolaires, nous on reçoit les enfants pendant 15 jours du matin au soir, et à cause d'eux, on a dû annuler ce stage. La mort dans l'âme, les enfants qui pleuraient parce qu'on pouvait pas organiser ce stage, parce qu'ils avaient l'habitude de venir le soir entre 80 et 100 gamins par semaine de stage, imaginez-vous. 80-100 gamins, on a dit leur dire non.
Je vous pose la question, aujourd'hui le dialogue est fermé avec la mairie ?
Alors le dialogue est... faut bien comprendre parce que...
je vous repose ma question différemment. Est-ce qu'il y a une absence de dialogue avec la mairie aujourd'hui ?
Alors, il n'y a jamais eu de dialogue avec la mairie depuis 3 ans, depuis la nouvelle direction. Maintenant, je me pose la question, est-ce que... Alors, je peux vous donner des éléments qui sont totalement factuels, qui sont vérifiables par tout le monde. Depuis 3 ans, il y avait un président qui s'appelait Ahmed, qui est français, qui est né en France, qui est très fier de l'être.
Qui a démissionné, me semble-t-il.
Qui a démissionné, donc qui a un nom qui a une consonance nord-africaine, on est d'accord. Il n'a jamais été. Il a été reçu au bout de 3 semaines de mandat, il y a 3 ans, après 3 relances. Il a été reçu une fois en 3 ans pour la plus grosse association de la ville. Il a démissionné. On a élu un nouveau président qui s'appelle pas Ahmed, qui a un nom à consonance européenne, qui est quelqu'un de très bien d'ailleurs, mais qui a un nom à consonance européenne. Ça fait 10 jours qu'il a été nommé et il est à sa 3e rencontre avec les élus en 10 jours. Bon voilà.
Comment doit-on comprendre cela, mon cher Ismaël Badawi?
Disons les choses clairement, c'est du délit de faciès, voilà. Et si aujourd'hui, il faut un peu regarder
du délit de faciès par les élus de la République.
C'est de la discrimination pure et simple.
Vous êtes convaincu de ça? Vous vous rendez compte de ce que vous dites à l'antenne? C'est en direct. France vous écoute et vous nous dites ça?
Totalement. D'ailleurs, je veux même vous dire, je veux même aller plus loin. On a 2 stades, un stade Nagesser où on avait nos locaux, il est situé dans une zone pavillonnaire. Et l'autre stade est situé là où il y a tous les quartiers de la ville. Et c'est un parc. Et on nous dégage de la zone pavillonnaire pour nous mettre dans un parc. Moi, j'y vois un message qui est très clair. Voilà, je fais pas de la langue de bois. Moi, je fais du football. Je suis un professionnel du football. Je suis là pour les enfants, pour les accompagner, pour mettre des éducateurs de compétences, pour les accompagner dans leur diplôme d'entraîneur, etc. On fait beaucoup de choses, on fait du soutien scolaire, on fait beaucoup de choses pour les
enfants.
Est-ce
qu'il y a eu un moment, si on pose les éléments, mon cher Ismaël Badawi, vous, manager oui. général, si on pose quelques secondes les éléments, est-ce qu'il y a eu un indifférent avec les responsables de la mairie, notamment l'élu sport de la mairie de Sartrouville?
Eh ben, en même temps, là, on l'a jamais vu, donc on peut même pas savoir. Alors, pour votre information, cet élu au sport est un ancien président du club il y a à peu près une quinzaine, vingtaine d'années. Ça peut paraître fou. Il était président du club, aujourd'hui, il met des bâtons dans les roues à ce même club. Mmh. Est-ce qu'il a cédé à un voisinage d'une zone pavillonnaire qui voulait pas voir une certaine catégorie, venir dans ce quartier-là pour arriver au stade parce que ça gênait le paysage? C'est une question, je la pose là sur le plateau. Est-ce qu'il y a un peu...
Donc vous êtes en train de me dire que l'élu sport est complètement indifférent, d'accord? Vous le confirmez, il est indifférent à votre cause?
Totalement. Totalement, il n'est même pas indifférent. Il est même acteur de notre... d'une certaine volonté de nous nuire. Donc c'est même pire.
Voilà. C'est pire.
C'est même pire. Donc pourquoi
je juge simplement, on essaye de comprendre ici dans les informés, est-ce qu'il y a un passif avec la mairie, un passif avec les élus, un passif avec les acteurs justement de la mairie de Sartrouville?
Alors moi j'ai...
Pas forcément vous, mais peut-être avec les anciens de l'association de sportive.
Alors moi je suis manager du club depuis 3 ans. Le président démissionnaire était président depuis 3 ans. En fait, on a repris la direction du club il y a 3 ans, on a changé de nom. L'ensemble du conseil d'administration de l'ancien club n'est plus présent aujourd'hui. Il a totalement été renouvelé avec des nouvelles têtes, que de la jeunesse, etc.
J'ai 38 Donc tout ans cela n'a pas plu aux responsables de la mairie.
Alors, moi, je sais d'informations que peut-être que, vous savez, peut-être qu'il veut assurer une politique sportive vis-à-vis du football qui est liée à un choix... de personnes avec qui veut travailler ou non, en fonction peut-être d'une consonance d'un prénom, peut-être d'un visage, peut-être d'une couleur. Les choses sont claires, hein, sont factuelles. Vous savez, si les parents se sont mobilisés, et je veux dire les parents de tout Sartrouville, hein, je ne parle pas de parents d'un certain quartier ou pas, hein, je parle de parents de tout Sartrouville.
Monsieur le manager général, ça tombe bien, vous savez quoi? Restez avec moi, je vais vous mettre en simultané. On a Kamel, peut-être que vous le connaissez, qui est parent de collectif justement, qui vous soutient. Il est de Sartrouville et on va l'accueillir. Bonsoir Kamel.
Oui, bonsoir Nabil, bonsoir Ismaël, bonsoir à toute l'équipe de RFM. Alors, Kamel. Moi je pense...
C'est Ismaël qui est avec vous. Hein.
Oui, Ismaël.
Oui.
Allez-y.
Il est avec nous en direct, hein, vous êtes en simultané. Ouais.
J'écoute. Et donc, pour information, donc nous, le collectif des parents, on est parti en repérage la veille du rassemblement, de la manifestation, c'est-à-dire on y a été vendredi soir. On a eu la chance de pouvoir croiser le maire de Sartrouville, qui, justement, on l'a interpellé donc gentiment. On a bien laissé, c'est un peu spécial, on a bien laissé une rue entre nous pour éviter qu'il nous accuse d'agression ou quoi que ce soit. Donc on l'a interpellé gentiment. Bonsoir monsieur le maire, est-ce que demain vous nous ferez la gentillesse quand même de venir nous voir? Non, je parle pas, je négocie pas avec les manifestations. Ok, très bien. Oui, mais alors quelles sont les preuves? Est-ce que vous allez faire quand même des belles choses pour le club? Maintenant qu'on a des gens sérieux en face de nous, on est en train de discuter. Voilà.
Oui.
Donc là, mais malheureusement, il y a voilà. Bon.
Donc c'est des camels. C'est des parents qui sont en colère. C'est des parents aujourd'hui qui ne comprennent pas la décision de la mairie. Mais c'est surtout des parents aujourd'hui qui continuent de manifester ou pas, qui disent notamment. Touche pas. Écoute, à mon club.
Adil, on ne lâchera pas. Maintenant, tu sais quoi, on ne lâche pas. Et puis, il faut savoir que, heureusement et malheureusement, on n'est pas des inalphabètes. Et on sait lire, on sait écrire, on a des réseaux. On ne lâchera rien du tout. Là, maintenant, tu sais quoi, moi, je veux que mon... Écoute, moi, mon enfant joue au club depuis son jeune âge. Oui. Actuellement, il joue en U13. D'accord. Moi, j'ai été mal informé par l'ancien comité directeur. Donc, je cherchais toujours le défaut. Tu vois, ça veut dire que il y avait un truc qui était maladroit.
Vous savez quoi, Kamel? Kamel, on va finir l'interview. Ouais. Je demande à Kamel et à notamment Ismaël Badawi, restez bien en direct avec nous parce que je vais juste faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après. Ça vous va ?
Ça roule.
À tout de suite.
Roule.
Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Il est 18h22 et c'est Les Informés, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et une affaire qui secoue Sartrouville. Il s'agit là du club de foot effectivement qui est remis en cause et notamment la mairie qui ferme tout dialogue avec, pour en parler bien sûr, Ismaël Badawi qui est le manager général de l'association justement en direct avec nous, l'Espérance Sportive. Et puis Kamel, vous savez quoi, qui est un membre du collectif des parents de joueurs qui est avec nous aussi également. Je voudrais poser la question à Ismaël Badawi, monsieur le manager général. Que comptez-vous faire après plusieurs semaines de mobilisation, plusieurs semaines de manifestation, touche pas à mon club notamment, qu'est-ce qui risque de se passer, de se produire dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Mais je suis tenté de vous dire plutôt dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous comptez faire et que va-t-il se produire?
Nous, on va faire valoir nos droits, on va faire valoir le respect qu'on nous doit en tant que plus grosse association de la ville. Et à ce titre-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à essayer de dialoguer avec des personnes qui veulent pas dialoguer avec nous. On va tenter d'obtenir des choses, mais surtout, on va continuer aussi à appuyer ce collectif des parents, ce soutien de tous les jours, pour qu'ils continuent aussi de leur côté à apporter leur soutien et à mener des actions pour faire comprendre à la municipalité, attention. Attention, vous jouez avec la plus grosse association de la ville qui a un rôle presque de service public parce qu'on s'occupe des enfants toute la semaine, même pendant les vacances. Donc à un moment donné, on veut faire respecter nos droits et on demande rien d'autre.
Est-ce que vous avez interpellé le maire de la ville?
Le maire, il est sur une tour d'ivoire. Il est sur une tour d'ivoire. On a l'impression qu'on est des, on se croirait au 14e siècle.
Vous l'avez sollicité? Vous avez sollicité une audience?
Parce que les gens vont peut-être aussi avoir des a priori. Parce que souvent dans les clubs de banlieue, on nous associe un petit peu à de la méchanceté, à de la virulence, peut-être même des fois de la violence. Ça fait 3 ans qu'on est constamment dans le dialogue. Ouais, on a concédé beaucoup de choses. Et vous savez quoi? On a cédé sur beaucoup de points et on n'aurait pas dû. Et je le regrette aujourd'hui d'avoir cédé parce qu'on pensait que le dialogue allait résoudre les choses. Et en réalité, avec ces gens-là, malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais ça ne résolut pas de céder, de rentrer dans le dialogue, ça ne résolut pas. J'ai l'impression qu'ils respectent que le bruit dans la rue. Et Kamel, ça, c'est dommage.
Kamel, qui est le membre de parents de joueurs. Kamel, dites-moi, la mobilisation sera toujours d'actualité vous concernant. Qu'est-ce que vous, parents de joueurs, qu'est-ce que vous allez faire aux côtés de l'Espérance, justement, sportive?
Alors, pour information, là, on a rendez-vous, le collectif des parents, pour justement faire un brief, faire un état des lieux par rapport au rassemblement de samedi dernier. On a eu, lors du rassemblement, on a même eu les renseignements généraux qui sont venus nous voir pour nous féliciter de la démarche et surtout de l'encadrement.
Oui.
Voilà. Et donc, pour information, là, on a un rendez-vous pour justement les prochaines actions. Ça va être déjà le plus basique, ça va être déjà les conseils municipaux. Au pluriel, qu'est-ce que ça va être? Et puis j'ai vu que vous aviez mis l'Algérino tout à l'heure. On a le contact avec l'Algérino. On va l'inviter à faire un concert pour rassembler le maximum de monde. Hein.
Oui, oui. Ismaël, vous répondez quoi face évidemment à cette forte mobilisation plus que jamais déterminée, Ismaël Badawi, des parents, notamment, est-ce que vous avez d'autres soutiens, d'autres villes voisines ou ailleurs dans les environs?
Alors on a reçu le soutien d'autres associations de la ville même et d'autres clubs de foot aux environs qui sont tous touchés par notre histoire. Et je vais vous dire une chose, on était nous la direction et moi en tant que manager général très déterminés à faire respecter nos droits. Vous savez ce que vient de faire le collectif des parents avec cet événement? Ils viennent de rajouter de l'essence à mon réservoir qui était déjà plein. Ils viennent de le faire déborder d'énergie. Donc je suis encore beaucoup plus déterminé qu'avant grâce à leur soutien et à leur force. Donc si vous voulez, on pense qu'on est dans le droit chemin, qu'on est en train de défendre une cause juste. Donc pour nous, si on défend une cause juste, on est obligé d'aller jusqu'au bout. On défend les enfants, rien d'autre. On n'est pas en train de... C'est ça qui est incroyable, on défend des enfants.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux acteurs, aux élus qui vous écoutent ce soir, s'ils vous écoutent d'ailleurs, si l'élu chargé du sport vous écoute, si le maire, si l'entourage du maire vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lancer pour ouvrir ce dialogue justement? Qu'est-ce que vous avez envie de lancer comme message, mon cher Ismaël Badawi?
Alors, très, très simple, monsieur le maire, monsieur l'adjoint au maire, revenez à la raison. Vous avez totalement disjoncté, vous faites du délit de faciès. Revenez à la raison, remettez les pieds sur terre. On est des Sartrouvillois et des Sartrouvilloises qui adorons notre ville et on s'investit pour notre ville. Revenez à la table pour discuter et juger sur la compétence, jugez pas sur...
Vous êtes ouvert au dialogue, Ismaël Badawi, si on vous écoute?
Je l'ai toujours été. Revenez, ils ont totalement disjoncté, ils sont hors sol. Il faut qu'ils reviennent à la table.
Ismaël Badawi, la question est simple. Vous êtes ouvert au dialogue aujourd'hui, s'ils vous écoutent?
Oui. Bien sûr, totalement ouvert.
Vous appelez de tous vos voeux, évidemment, à ce que chacun des acteurs se retrouve autour d'une table pour négocier, pour parler.
Je les appelle à venir discuter, qu'on puisse trouver une solution à ce problème. Je les appelle à raisonner avec une raison qui soit objective et non subjective. Je les appelle à regarder ce qui est fait à l'intérieur du club. Je les appelle à parler avec les parents pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent du club. Je les appelle à me juger sur la compétence et sur le travail qui a été fait depuis 3 ans. Ensuite, quand ils auront fait cet audit, je les invite à revenir à la table pour enfin admettre que le travail est bien fait, qu'il devrait nous accompagner plutôt que nous mettre un mur.
Eh bien, merci. Voilà. Vous savez que, évidemment, alors, je le sais, hein, je sais parce que dans les petites coulisses, justement, régulièrement, je sais que TPMP viennent, évidemment, s'inspirer des sujets qui sont parfois sur Beurre FM. J'espère que, évidemment, il va y avoir un écho et que les autres collègues vont se saisir de la question, notamment, et du sujet. Je vous le souhaite. En tout cas, sachez que j'ai eu un message de la patronne de la radio qu'elle me dit, évidemment, qu'on continuera à parler de vous et que, évidemment, que le relais est là et que, voilà, le soutien aussi vous accompagne.
Merci beaucoup, merci du soutien de RFM, merci d'avoir mis ça en lumière parce que c'est vous les premiers et c'est grâce à vous, je ne remercierai jamais assez.
Écoutez, c'est aussi notre rôle, le rôle évidemment d'informer et de sensibiliser. Merci Ismaël Badawi, vous qui êtes le manager général de l'Espérance Sportive. Merci à Kamal aussi, le membre de parents de joueurs.
Seulement pour terminer, moi en tant que parent, en tant que parent, tout simplement, on veut avoir le droit d'avoir le droit de que nos enfants s'épanouissent.
Exact. C'est important. C'est important, c'est vrai, vous avez raison. Il faut que les enfants, évidemment, retrouvent tout cela.
Merci à Adil.
Merci à vous deux. Merci à Ismaël Badawi. Merci à Kamal. Merci évidemment. Vous nous tenez au courant surtout. Hein.
Bien sûr.
Et qui même, d'ailleurs, moi je n'hésiterai pas, vous le savez, Ismaël Badawi. Je peux contacter le maire et le solliciter pour une interview. Tiens, je le ferai, tiens, d'ailleurs. Je vais contacter la mairie, je vais contacter l'élu chargé du sport et je vais tenter de comprendre tout cela.
Ok, très bien. Faites-le avec plaisir. Faites même un débat. Je suis prêt à débattre en face à face, même en direct à la radio avec le.
Eh ben, je les appellerai demain et on se tient au courant. Merci à vous. 18h30.
Merci à vous.
Merci, 18h30, on a pris du retard, mais évidemment, c'était pour une belle cause, et c'est normal. 0153-48-3000. Alors, vous qui nous écoutez, vous le savez, partout en France, on a parlé de cette relation France-Maroc, France-Algérie, Algérie-Maroc, et vous avez évidemment avec cette relation qui devient parfois exécrable, cette relation qui parfois ne trouve pas, évidemment, cette issue. Alors, on va en parler, parce que aujourd'hui, il y a une réalité, il y a un constat. Lequel? Eh bien, tout simplement, c'est qu'en France, au Maroc ou en Algérie, il y a des couples mixtes. Quand je dis couple mixte, c'est-à-dire qu'il y a un mariage entre Maroco-Algéro, Algéro-Maroco. Il n'y a pas un couple qui, évidemment, ne retrouve pas un Algérien ou un Marocain ou un Algérien. Alors, cette situation compliquée, est-ce qu'elle rejaillit parfois au sein des familles, des couples, de l'entourage? 0153-48-3000, je vous attends tout de suite. Farid de Hanière. Farid, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Farid?
Je suis cuisinier à la retraite.
Cuisinier retraité, bienvenue, nous vous écoutons.
J'ai des problèmes de santé.
On vous écoute, Farid. 0153-48-3000
oui,
pour les
oui.
autres.
Je lis Le Monde, et j'ai vu un article. Il y a la guerre froide au Maghreb, notamment entre le Maroc et l'Algérie. D'un côté, bon, ça c'est le Maroc et l'Algérie, la guerre froide, ce qu'on appelle.
Oui, oui.
Et puis, d'un côté, pourquoi on empêche l'Iran de se doter de l'arme nucléaire?
Il y a deux sujets différents là. Vous nous parlez de la guerre froide.
Deux choses différentes, ouais.
Ne mélangeons pas tout. Restons sur la géopolitique Maroc-Algérie. Comment vous la vivez vous-même, mon cher Farid?
Ben, c'est un peu compliqué parce que tout ça pour une poignée de Sahara, du poignée de sable, du Sahara occidental, ils se disputent, ça fait 50 ans qu'ils se disputent. C'est les frères, Maroc et Algérie, c'est les pays frères, hein.
Oui.
Pourquoi ils se disputent? Le peuple, Chab, ils s'entendent bien, mais c'est les dirigeants qui s'entendent pas.
Et vous faites notamment référence à cet article, cette interview consacré à, dans le journal Le Monde, un climat de guerre froide s'est installé au Maghreb.
Oui,
ça, c'est la déclaration. Oui, je l'ai lu. Je l'avais lu il y a quelques jours pour tout vous dire vendredi dernier.
Et
c'est une politologue qui fait cette déclaration. Khadija Mohsen Finan, qui a accordé cet entretien au journal Le Monde. Absolument.
Ouais.
Merci à vous d'être intervenu. Merci Farid, vous avez raison, vous avez raison de le rappeler. C'est vrai.
Bah oui.
Deux pays frères. Et oui, donc ils sont condamnés. Ils ont une histoire commune. Le Tamazir d'abord, la berbérité, et puis cette histoire commune aussi, n'oublions pas, avant que les frontières se dessinent, eh bien il y avait, vous savez quoi, un pays. Voilà. Reda du 94, bonjour Reda.
Bonsoir. Comment vous allez?
Quelle ville du 94, mon cher Reda?
À Limay, Bremen.
Bienvenue, qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis chef de projet dans le marketing digital.
Ça va, les affaires reprennent?
Ça s'est pas tellement arrêté dans le digital, alhamdulillah.
Bon, tant mieux pour vous. On vous écoute, mon cher Reda.
Bah, moi, je voulais intervenir par rapport à cette question, effectivement, géopolitique qui est sous le feu des projecteurs depuis plusieurs années maintenant.
Ouais.
Moi, je suis marocain d'origine et de nationalité.
Oui.
J'ai remarqué tout de même un fort changement, en tous les cas, de cette relation qu'on avait entre peuples marocains et algériens. Auparavant, lorsqu'on se rendait au Maroc ou en Algérie, on entendait souvent, en tous les cas, que ça, c'est des affaires politiques, nous, ça ne nous concerne pas.
Ouais.
Et on voit qu'aujourd'hui, maintenant, ces affaires qui étaient censées être simplement politiques, elles sont en train de détendre sur le peuple.
Mm.
Et ça, c'est dû dans un premier temps aux médias, je pense, locaux, qui font leur travail, c'est-à-dire de changer les mentalités et d'adhérer à une idée collective du peuple et de ce qu'on veut faire parvenir à cette idée-là. Et malheureusement, c'est les peuples qui sont en train d'en pâtir aujourd'hui.
Mmh.
Et guerre froide, c'est un terme qui est fort, mais je dirais même que si ça continue, ça va être plus qu'une guerre froide et même peut-être une guerre tout simplement, ce qu'on espère.
On ne le souhaite pas, mais évidemment. Mais c'est cette crainte que vous avez.
Ah bah c'est clair. Ouais. C'est clair quand on voit le climat actuel entre les deux peuples, entre les deux pays, une guerre a l'air quasiment inéluctable.
Mmh.
Quand on voit que chacun a des positions très fermes et ne souhaite pas se rétracter, malheureusement, ça court vers cette issue-là.
Non, on ne le souhaite pas, effectivement, et j'espère que tout cela va avoir une issue constructive. Merci, mon cher Reda, d'être intervenu.
Avec grand plaisir, salam alaikum.
Alaikum salam, bienvenue à Khalid, du 38, c'est le département. Quelle ville du 38, mon cher Khalid?
Échirol, salam alaikum.
Échirol, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un auditeur d'Échirol. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Khalid?
Je suis ingénieur en génie mécanique.
Ouais, bah, ça repart les affaires, je crois, là, hein, dans le... J'ai bien compris.
Ouais. Ah, exactement.
Khalid, on vous écoute.
Merci beaucoup. Déjà, merci pour ce sujet-là. Donc, c'est vraiment ces problèmes politiques, en fait, quand ça vient entre le peuple et dans le social, entre Marocains et Algériens. C'est ça ce qui est malheureux, en fait. Moi, quand je vois tous les commentaires entre Marocains et Algériens, ces disputes-là virtuelles, ça me fait vraiment, vraiment mal au cœur quand je vois ça. Alors que les affaires politiques, ça doit rester dans les rangs politiques. Voilà. On doit pas les voir traduits entre les personnes lambda. Donc voilà, qui n'ont rien à voir avec ça. C'est pas eux les causes de ces problèmes-là. Et ils ne doivent pas prendre parti, soit avec le Maroc ou avec l'Algérie. Moi, je suis marocain. Donc, du coup, je donne pas raison à mon peuple, à mon État. Je donne pas raison à l'État algérien non plus. Du coup, leurs affaires, ça leur concerne. On aimerait bien avoir les deux, main dans la main. Mais voilà, donc, quand on voit des problèmes comme ça, ça doit rester dans les rangs politiques. Voilà.
Vous avez raison. Voilà, donc, ne pas céder évidemment à ce vent qui, justement, c'est dans l'intérêt de certains. La politique, il a bien dit, Reda. La politique, exactement. Laissons ça aux affaires
exactement.
Politiques.
Et après,
le peuple, parler, c'est le même peuple. Il ne doit exactement. Pas succomber à, évidemment...
Après, en tant que musulmans, donc voilà, donc les deux peuples sont des peuples musulmans, donc les musulmans sont des frères, donc on doit garder cette fraternité-là. Il doit pas être en fait flouté par ces problèmes-là. Donc
merci Khalid.
Voilà, donc merci beaucoup à vous. Au revoir.
Merci, c'est dit. Vous continuez de nous appeler au 01 53 48 3000. On retrouve le face-à-face dans une poignée de minutes, juste après la pause. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est une très belle chose, 18h43 précisément. C'est votre émission, votre magazine, hein, où on commente, on prend le temps de commenter, décrypter et notamment analyser l'actualité. Je reçois tout à l'heure dans une poignée de minutes Amin Sahal, l'élu de la Courneuve, le représentant CGT qui viendra nous parler de la grève qui s'annonce jeudi prochain, Jimmy Dalidou. Et en attendant, je vais recevoir encore les quelques auditeurs, Karim du 75 et ensuite
oui,
Ahmed.
Alaykoum.
Alaykoum salam, Ahmed.
Oui, c'est la première fois que je participe à l'émission que j'appelle.
Ah, c'est la première fois, bienvenue. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, j'espère.
En fait, je ne vis pas en France, je vis en Algérie.
Algérie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, mon cher Karim?
J'étais militaire en Algérie
oui.
pendant 25 ans.
25 ans.
Là, ça y est, c'est bon. J'ai pris ma retraite.
vous êtes en retraite, ça y est.
Exactement.
Alors, on vous écoute, mon cher Karim.
Voilà. Je voudrais participer à ce qu'ils disaient vos auditeurs tout à l'heure entre le Maroc et
l'Algérie. Vous êtes en direct. On vous écoute.
Merci. OK. En fait, c'est un conflit qui date pas d'aujourd'hui entre le Maroc et l'Algérie. Bon, si on peut appeler ça un conflit, hein. D'accord.
Vous avez raison de le souligner. Si on peut appeler ça un conflit.
Si on peut appeler ça un conflit, en fait, c'est divisé pour mieux régner, parce qu'il y a certaines puissances occidentales qui voudraient voir diviser ces pays-là, comme l'Algérie et le Maroc.
Oui.
D'accord. Et bon, il y a le problème du Polisario, mais ça, on va dire, c'est un problème minime. C'est une petite goutte d'eau, comme. Mais pour qu'il y ait une guerre entre les deux pays, je ne pense vraiment pas que ça pourra se passer. Mmh. En fait,
c'est bien parce que c'est un ancien militaire à la retraite qui le dit.
Ouais, en fait, certaines
puissances. Et en général, ils sont bien informés.
Voilà. En fait, certaines puissances, parce qu'il y a toujours une collaboration entre l'armée algérienne et l'armée marocaine, indirectement, parce qu'il y a une collaboration avec tous les pays du monde, que ce soit au niveau du terrorisme. D'accord. Et jusqu'à présent, il y a toujours une collaboration. Juste pendant le confinement, le Covid, il y avait beaucoup de, je sais pas si certains auditeurs en France ont remarqué, il y avait beaucoup d'allers-retours entre Casa, Oran, Casa, Alger. Bien avant qu'on arrête les avions, bien avant qu'on
Vous
arrête
avez raison.
Ça, il y avait beaucoup de...
Énormément.
Et jusqu'à maintenant, il y en a en off, quoi. Malgré que le gouvernement algérien a arrêté le survol de l'espace aérien côté marocain. D'accord, mais on peut toujours se présenter, enfin, autant que militaire, non, mais autant que civil, on peut toujours aller de passer de la Tunisie, prendre un vol entre la Tunisie et Marrakech avec un passeport algérien, ou partir de France, il n'y a aucun problème, malgré qu'il y ait un petit problème entre la Tunisie et le Maroc, ils avaient arrêté leur vol. Mais sinon, au niveau guerre, je ne pense pas, franchement, je ne pense vraiment pas.
Et bien, votre témoignage, c'était un témoignage important, parce que vous êtes un militaire à la retraite, et c'est bien.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Algérie monte en puissance, le Maroc a commencé à monter en puissance, et ça dérange certaines puissances. Ça, faut bien que la population le comprenne. Faut bien que le peuple algérien et le peuple marocain, faut bien qu'ils comprennent ces choses-là. En fait, c'est divisé pour mieux régner. Ils veulent pas nous voir monter, tout simplement ça. Ça, faut que le peuple le comprenne. Il y a aucune différence entre un Algérien ou un Marocain ou un Tunisien, il y a aucune différence. En Algérie, l'armée algérienne ne fait aucune différence. Le peuple algérien ne fait aucune différence et le peuple marocain ne fait aucune différence. Ça, faut bien le comprendre. Ça, tout ce que vous voyez sur TikTok, sur les réseaux sociaux, tout ça, faut passer. C'est bâclé, tout ça. Faut pas écouter tous ces mensonges-là.
C'est un Algérien d'Algérie. En plus, de facto, vous êtes un militaire à la retraite aujourd'hui, donc vous avez des informations.
Exactement. Je suis resté plus de 15 ans à la frontière entre Marnia et Oujda. Et tous les matins, et je vous dis bien tous les matins, j'allais à Bnidaler, côté marocain, prendre mon café, j'ai jamais eu de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, faut vraiment faire la différence. Faut que le peuple soit fort sur ça. Il y aura jamais de guerre entre deux pays frères. Ça, faut bien le comprendre.
Vous avez raison. C'est très important. Voilà. Moi, j'aime les messages positifs. Ça me fait plaisir. Ça fait chaud au cœur, c'est bien.
Dans la Marnille, il y a 70% de Marocains qui vivent. Vous allez à Oujda, il y a 90% d'Algériens qui vivent.
Ouais, c'est vrai. D'accord.
Et ça, on peut pas se mentir, hein. Ouais. Ça, c'est, voilà. Le consulat d'Algérie, au Maroc est toujours ouvert. Mmh. Les ambassades sont toujours ouvertes. Mmh. Ça, faut bien le comprendre. Il y a un problème entre un gouvernement et un gouvernement, mais comme je vous dis, il n'y a pas lieu de s'alerter comme quoi qu'il y aurait une guerre ou quoi que ce soit. Hein. D'accord, mmh. Le problème polisario existe depuis des années, bien avant Boumedine. Mmh.
C'est vrai, c'est vrai.
Faut bien le comprendre.
Eh ben, merci pour ce témoignage important, mon cher Karim.
Merci pour votre émission.
Et n'hésitez pas à revenir à l'antenne.
Inch'Allah, merci. Barakallah, c'est
excellent. Allez, allez, comme ça. Bienvenue. C'est parti, le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Il est bien, Karim, hein.
Il est très bien. Il est très bien.
Message d'espoir, hein. Et message positif.
Non, et puis il a complètement raison.
Il a tout résumé en une phrase.
Il y a beaucoup de discours alarmistes autour de ces. C'est même pas des tensions, j'ai envie de dire, c'est des désaccords, mais ils sont vieux comme l'histoire entre ces deux peuples qui, vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont un parcours, une histoire commune et voilà, il y a pas de, moi je m'inquiète pas, enfin tout à l'heure je sais plus qui parlait de guerre froide, enfin il y a pas de guerre froide.
Ça c'est le politologue, l'interview référence à l'interview justement.
Ouais, il faut pas. Dans les journaux, il faut dire tout et n'importe quoi, donc c'est pas parce qu'on a ce titre de politologue qu'on peut se permettre tous les discours les plus
alarmistes. Amine Saha qui est un élu de la Courneuve, comment ça va, tout va bien?
Très bien.
Jimmy Dalidou, le représentant CGT, mais également il est auteur. Bonjour mon cher Jimmy.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va.
Messieurs, tout de suite, nous allons démarrer avec ce premier sujet. Vous savez, c'est cette menace. La menace de dissolution. Ne me regardez pas avec des grands yeux. Dès que j'ai parlé de menace, il m'a regardé avec des grands yeux. Tu sais, genre.
C'est plus une menace.
C'est quoi cette menace? Elle vient d'où? Les députés, qui sont eux sceptiques, ils se posent des questions. Alors, c'est la rumeur qui gronde, hein, vous savez, de plus en plus au sein de l'hémicycle. Alors, c'est vrai que les députés se disent, Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a cette hypothèse qui peut être crédible? Amine Saha.
Mais j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises à ce micro. Je pense que en l'état, il n'est pas possible de gouverner pendant 5 ans à coup de 49-3 systématique.
Les autres l'ont fait dans le passé.
Alors, c'était pas exactement les mêmes situations. La seule fois où il y a eu vraiment une majorité très relative, il lui manquait 12 ou 13 députés. Là, on parle quand même d'une cinquantaine de députés pour avoir une majorité solide. Donc, Rocard trouvait tantôt ici ou là quelques députés de part et d'autre de l'Assemblée pour faire passer ses textes. Parfois, il a dû faire usage du 49-3. Mais là, en l'état, trouver à chaque fois un compromis avec 50-60 députés, d'autant plus que dans sa majorité, le président de la République aujourd'hui est quand même contesté. On l'a vu tout récemment avec la position du Modem et François Bayrou qui pèse quand même 40 ou 50 députés au sein de la Macronie. Ça risque d'être compliqué pour lui de tenir comme ça dans la durée et je ne vois pas comment on ne se dirigerait pas vers une dissolution d'ici le printemps.
D'ici le printemps, invivable. Donc c'est insoutenable pour tout le monde.
C'est insoutenable.
Insoutenable pour tout le monde. Mon cher Jimmy Dalidou, quel est votre regard?
Oui, alors d'abord, je pense qu'actuellement, le français lambda, pour vous parler franchement, je pense qu'il s'en bat les reins de ce qui se passe dans l'Assemblée nationale.
Oui.
Il a en élu de 2 mois, il est en train de s'y voir ses factures tomber, il est déjà découvert, il est en train de se dire, il s'inquiète des 20 prochains jours, et il se demande comment il va finir le mois.
Ça, c'est vrai.
Donc ce qui se passe dans l'Assemblée, il s'en bat les reins. Et ensuite, je dirais, par rapport quand même, j'ai quand même un avis là-dessus. De toute façon, c'est quand même bizarre qu'il appelle et qu'il menace plusieurs fois, concernant la dissolution. Parce que soit il va le faire, soit il va le faire. Mais même s'il le fait, de toute façon, ça ne veut pas dire qu'il va récupérer une majorité absolue derrière.
Non.
Et à mon avis, s'il y a des nouvelles élections,
il faut repartir en campagne.
Il y a des élections.
C'est le plus dur.
Et à mon avis, les Français vont pas voter pour la République en marche. Ça, j'y crois pas du tout.
Ah ouais.
Donc, ce qui risque de se passer s'il y avait dissolution, c'est qu'il va y avoir un agrandissement de la NUPES et du Rassemblement National dans l'Assemblée.
Donc, ça, c'est une majorité relative, donc ça veut dire.
Ce serait pire que du.
Ouais.
Donc, il
vous partagez ça,
c'est lui
non.
qui voit, mais c'est un risque. Ensuite, effectivement, par rapport au 49-3, qui est, on va dire, une des causes des contradictions à l'intérieur de l'Assemblée, effectivement, c'est bien de nous rappeler quand même que le 49-3 n'est pas un outil de la Macronie purement, c'est pas un outil purement macroniste. Ça a été utilisé plusieurs fois à travers tous les gouvernements. Dès qu'ils ont, en fait, c'est une parodie parlementaire. En fait, C'est des gars qui touchent les parlementaires, ils touchent 10 000 balles par mois à parler. Et à un moment, il faut agir vite.
Voilà, bon.
Donc,
allez, là, je marque juste
il
une
passe
pause.
Au-dessus de cette paradis parlementaire.
Allez,
et
allez,
il fait tout tout seul.
Allez, on revient dans une. Vraiment, quelques minutes à peine. On marque une courte pause. Il y a Minsa, vous allez me dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec, évidemment, Jimmy Dalidou. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, c'est avec Aminsa. Les informés aussi, notamment avec Jimmy Dalidou. Mais vous aussi au 01-53-48-3000. Aminsa, je vous redonne la parole. Vous aviez évidemment été interpellé par le fait que Jimmy Dalidou nous dise ici, dans les informés, que la dissolution ne correspond pas forcément à avoir la majorité, y compris relatif, pour Macron.
Pourquoi je suis pas d'accord avec ça? Parce que premièrement, je pense, enfin, le Emmanuel Macron est pas fou, hein, il va pas dissoudre demain matin. Et évidemment, il attend de voir comment tout ça se met en ordre de marche, à la fois comment sa majorité va réagir dans les toutes prochaines semaines, parce qu'il va y avoir des textes importants. On l'a dit, on va ouvrir le débat sur la réforme des retraites, on va ouvrir également un certain nombre de chantiers, la loi immigration, etc. Et donc tout ça va participer quand même à consolider ou à fragiliser soit la majorité relative, soit les oppositions.
Consolider ou...
En l'état, la NUPES, malheureusement, est quand même dans un état un peu difficile, disons. Il y a un peu d'éparpillement.
Ouais, je les vois mal.
Je vois mal comment la NUPES, compte tenu des désaccords, et je le dis encore une fois, il n'y a pas eu d'accord politique. On est parti sur un accord électoral avec le
résultat. Mais tu vois bien que même si la NUPES est quand même relativement divisée parce qu'elle n'est pas homogène, tu vois bien que les filles progressent quand même. Et les filles progressent en même temps que la colère sociale progresse.
Mais je pense que
donc si tu as de nouvelles élections, même si tu n'as plus la NUPES, c'est pas impossible que la France insoumise progresse après la dissolution.
Alors c'est pas parce que la France insoumise progresse que la NUPES progresse. La France insoumise peut progresser au sein du camp de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute mouillée, la gauche, ça pèse entre 29 et 30% en fonction des sondages. Bon, si LFI pèse 20% là-dedans, 22 au sortir de la présidentielle, elle peut monter à 25, absorber, piquer des sièges à d'autres membres de la NUPES. Mais je ne crois pas à une majorité dans le pays aujourd'hui à gauche.
Des personnes qui se disent à gauche et qui ne se sentent pas représentées.
Ah non, mais ça je suis d'accord.
À l'Assemblée.
Ça, je suis parfaitement d'accord.
Pour l'instant, ne votent pas pour aucune formation politique parce qu'ils considèrent que les idées de gauche ne sont pas représentées dans le paysage politique.
Oui, bien sûr, mais ça, je suis parfaitement d'accord. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que oui, je pense que si demain, au printemps, on devait avoir une nouvelle élection législative, je pense que le Rassemblement national pourrait en sortir plus renforcé, avec quelques députés supplémentaires, parce qu'ils vont aller les piquer aux Républicains qui sont complètement plus qu'éparpillés. Je crois qu'ils sont en train de vivre leurs dernières heures, à mon avis, entre ceux qui vont finir chez Emmanuel Macron et ceux qui vont s'éteindre avec le parti et peut-être faire le choix d'aller chez Marine Le Pen. Je vois pas comment ils continuent à exister dans l'hémicycle, en tout cas dans l'échiquier politique, avec les positions qu'ils ont. Elles sont soit très proches de Marine Le Pen, soit très macroniennes. Donc ils n'ont plus aujourd'hui d'espace politique dans le pays. Après, la gauche, est-ce qu'elle peut se renforcer davantage demain avec une potentielle dissolution? C'est possible, mais en tout cas, en l'état, aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que dans 4 mois, dans 5 mois, la gauche pourrait se ressaisir. Mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont quand même d'accord sur à peu près rien. C'est ça qui est dommage.
Il y a une contradiction. En fait, concrètement, même s'il y avait une dissolution, admettons qu'il y ait une dissolution. Tu as des nouvelles élections, mais il y a quand même eu aux dernières élections présidentielles, on se rappellera quand même qu'il y a eu quasiment 30% d'abstention. Donc il faudrait qu'entre le moment où il y a eu les élections présidentielles où il y a eu 30% d'abstention et le moment où tu aurais une dissolution, je reste conditionnel puisque c'est pas fait, il y aurait une dissolution et de nouvelles élections, il faudrait que ces 30% d'abstentionnistes à un moment se soient dit ah oui là je vais y aller, je vais voter parce qu'il y a une force politique qui m'en
présente. Ça n'arrivera pas, on n'a jamais atteint 100% de participation dans ce pays.
Je pense pas que ce soit une réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ne se sentent absolument pas représentés par la politique actuelle, la politique française, parce que à un moment, concrètement, même s'il y a des formations politiques qui se présentent comme des oppositions, bah à un moment les mecs ils bouffent dans les râteliers en fait. Ils bouffent dans les mêmes râteliers.
Donc en gros, je comprends les deux points de vue, l'un qui dit qu'effectivement c'est un gros risque pour Emmanuel Macron, vous dites non, plutôt pas.
Non, je pense que bien sûr que c'est un risque, mais je pense qu'il va, c'est un risque calculé pour lui.
Ouais.
De toute façon, en l'état, il n'a pas de majorité. Donc alors oui, il pourrait en sortir affaibli, mais je pense qu'il ce serait difficile pour un président d'exercice de descendre en dessous de 220.
Bah, en même temps, même s'il était affaibli, il a toujours, même si tu as une dissolution et une reconstitution après élection, de toute façon, il aura toujours l'outil du 49-3. De toute façon, oui, avant dissolution ou après dissolution, il va utiliser 49-3.
Oui, mais là, il sera.
Et tu vois bien qu'il est incapable de prendre des décisions collectives, ce gars-là.
Mais là, je pense que le pays deviendra vraiment ingouvernable parce qu'il ne pourra plus dissoudre de nouveau. Et donc, le seul outil qu'il aura, ce sera soit de gouverner par ordonnance et par le 49-3, soit tout simplement de.
Vous pensez que la NUPES peut gagner davantage, plus de sièges, plus de, évidemment, d'espace au sein de l'hémicycle?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le pays, l'électorat, aujourd'hui, la gauche est au plafond. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher les électeurs dans les camps. Où...
C'est compliqué pour la gauche.
Ouais, c'est très compliqué aujourd'hui. Il y a pas
la gauche, pour le RN, le Rassemblement National.
Aujourd'hui,
ils ont un boulevard.
Alors, je ne sais pas si le Rassemblement National aujourd'hui n'est pas majoritaire dans le pays. C'est une certitude. Tout mouillé, le Rassemblement National, ça pèse 13-14 millions d'électeurs.
En fait,
c'est pas suffisant. 13
millions
pour aujourd'hui.
Les deux sont liés. En fait, le problème qui se pose dans ce pays, c'est que depuis après 45. Je pense que le principal problème, c'est ça vient des formations qui disent communistes, notamment PCF, etc. Pourquoi le lien dialectique, il est simple. Le problème qui s'est posé, c'est qu'après 45, la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français, pouvaient lever le poing dans ce pays. Ils étaient organisés. Alors c'était une opposition, une véritable opposition de conviction, tu vois. Et le problème qui se pose, c'est qu'on a des formations politiques qui se disent une véritable opposition de gauche, et qu'en fait, ce sont, au fur et à mesure du temps, ils se sont transformés en des formations de type social-démocrate. Donc le Rassemblement National le voit, ça. Il s'est engouffré dans cette brèche. Malheureusement, je suis le premier à qui ça fait... Moi, ça m'agace. Ça fait 22 ans que je milite, et ça fait 22 ans que je suis communiste révolutionnaire. Ça m'agace de voir le RN qui récupère des discours. Parce qu'il a compris qu'en fait... Il a compris que les travailleurs français sont orphelins politiquement. Donc le Rassemblement National récupère un discours politique, il récupère un discours social qui normalement devrait être mis en exergue par des formations de gauche.
Non, mais je souscris totalement à ça. C'est-à-dire qu'on l'a vu les 15, 20, même 30 dernières années, à chaque fois que la gauche radicale a baissé, on l'a vu avec l'effondrement du Parti communiste, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? L'extrême droite, elle progressait. Donc il y a un électorat qui a glissé de la gauche radicale, la gauche très à gauche, vers, parce que j'aime pas le terme extrême gauche, parce que je crois que la gauche en France n'est pas extrême. Les électeurs ont glissé de l'autre côté de l'échiquier politique, séduits sans doute par les discours très populistes, hein, notamment par de
Marine
Le Pen.
D'ailleurs, cette brèche sociale dans laquelle s'est engouffré le RN dont on parle, et le fait que ce qui s'est passé dans l'hémicycle avec M. Bilongo,
qu'on a reçu hier.
Beaucoup de militants du RN ne sont pas d'accord avec ce qui s'est dit. Hein. Mmh. Ils sont pas. Effectivement, pour moi, ça reste une formation sociale fasciste. Mais beaucoup de militants du RN et travailleurs qui ont entendu ces propos ne sont pas d'accord avec ce qui s'est dit.
Sûr.
Donc, on voit bien qu'en fait, ils sont quand ils s'orientent vers le RN, parce qu'ils ont personne à gauche.
Mais je suis parfaitement
d'accord.
Ils ont
plus de parti communiste.
Je suis parfaitement
d'accord. Ils pensent que le RN est une véritable force d'opposition. Ils n'ont pas compris que ça reste.
Je ne crois pas que les 13 millions d'électeurs du Rassemblement National sont forcément tous racistes.
Il y a beaucoup qui sont déçus de ce qui s'est passé après ce qui s'est passé par rapport à Monsieur Bilongo. Donc je crois que il faut vraiment que nous prenions nos responsabilités. Tu vois,
messieurs
les vieux militants, il faut qu'on prenne nos responsabilités.
Allez, et qu'on 19h03 précisément. Et il faut qu'on avance. Et je veux qu'on aborde cette grève. Attendu ou pas, mais cette grève annoncée par les syndicats, nouvelle grève dans les transports parisiens, messieurs, ça se passe jeudi prochain. Alors, est-ce que le trafic risque d'être fortement perturbé, monsieur le représentant de la CGT?
Ouais, Jimmy Delido. Alors, on conseille évidemment les usagers d'utiliser d'autres moyens de transport s'ils le peuvent, parce que la RATP a d'ores et déjà posé son préavis de grève.
Jeudi noir ou pas jeudi noir?
Ça se présente comme un jeudi compliqué, parce que les RER B et A seront touchés, les métros seront touchés et les bus seront touchés. Alors qu'à la base, l'offre n'était pas, on va pas dire, n'était pas conséquent. Chez les cheminots, on a posé un préavis de grève jusqu'au mois de janvier.
On me... ouais. Et voir, y a que le RER 1 sur 3, SNCF 1 sur 2.
Ça va être compliqué.
Ça va être compliqué.
Donc, que les usagers, bon, on encourage les usagers à prendre un d'autres itinéraires s'ils le peuvent. Et encore une fois, la revendication principale, quand même, c'est l'augmentation des salaires. Augmentation des salaires pour tous, quels que soient les secteurs.
C'est la principale revendication.
Principale revendication. Augmentation des salaires tout de suite.
Augmentation des salaires.
Exactement. La vie, elle est chère. On en a tous marre. Que ce soit public, privé, augmentation des salaires immédiatement.
Donc vous allez reproduire le schéma des syndicats de Total.
Bah, disons que...
qui avaient les mêmes revendications.
Bah, encore une fois, je reviendrai sur le préavis grève en lui-même. Encore une fois, c'est un process. Il faut bien comprendre le process. Quand vous déclenchez un préavis de grève, c'est qu'avant, vous avez eu des discussions entre les partenaires sociaux et les RH. C'est qu'il y a eu... Il y a une procédure à suivre. Et quand vous discutez et que de ces discussions, il n'y a rien de constructif, bon, bah forcément, ça débouche un préavis de grève. Il y a certains médias qui vous ont présenté pendant justement les grèves chez Total que c'était des grèves préventives, des grèves, etc. Totalement faux. Il n'y a pas de grève sauvage préventive. Non. Quand il y a un préavis de grève, c'est que dans le process qui amène au préavis de grève, c'est qu'il y a eu discussion et concertation. Et c'est que justement ces discussions n'ont abouti à rien et que justement on s'entend pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un préavis de grève. Donc le préavis de grève il tombe pas du ciel comme ça du jour au lendemain. Ça faut bien comprendre. Donc voilà, donc il y a des partenaires sociaux, des représentants qui ont été élus. Moi je suis conducteur de train à la gare de l'Est. J'ai mes collègues qui me demandent beaucoup de choses. Ils me disent bon on y va pas. La dernière fois j'ai fait une grève chez les conducteurs de train de travaux. On a eu gain de cause. On s'est arrêté 10 jours. Bon, ben, il y a eu des discussions avant. Bon, le patron n'a pas écouté, il n'a pas écouté, on a posé les sacs. Mais s'il y a un préavis de grève, c'est qu'il y a eu des discussions et des débats avant.
J'ai un message à Elisabeth Borne, à sommer les entreprises faisant des bénéfices d'augmenter les salaires avec mépris les directions métro, RER, RATP, nous ont reçus hier et ont balayé d'un revers de main nos revendications légitimes. Il ne reste que la grève. C'est vrai, ça?
Bah, exactement.
C'est vrai?
Exactement.
Vous confirmez.
Oui, tout à fait.
Oui, quand le dialogue ne suffit plus, il faut aller au rapport de force.
Alors moi, la question que je vous pose, vous l'élu, est-ce que c'est un conflit qui peut s'installer dans la durée, de la même manière que celui qu'on a vécu avec Total?
Alors j'ai envie de dire, compte tenu de la situation économique du pays, et on a eu par ailleurs aujourd'hui quelques discours alarmants quant à l'inflation, etc., même si le ministre de l'économie a tenté d'être rassurant il y a quelques jours en estimant qu'il n'y avait plus besoin de ce fameux « quoi qu'il en coûte », j'ai quand même l'impression qu'on va se diriger vers une situation économique de plus en plus compliquée, notamment pour les plus fragiles d'entre nous. Et de fait, les revendications, notamment salariales, hein, alors c'est pas forcément... moi, je veux pas pointer du doigt ni Total, ni la RATP. Je pense que c'est quelque chose c'est une réalité dans le pays, de manière générale. Les salaires n'augmentent pas. L'inflation est extrêmement importante. Alors même qu'on a une fiscalité qui est très importante dans le pays. Donc oui, moi je suis un fervent défenseur du droit de grève, qui est un droit garanti par la Constitution, et il faut qu'il puisse s'exercer, même si parfois j'en pâtis également, et l'objectif d'une grève c'est d'impacter quand même, hein. Je le dis aux auditeurs qui nous entendent et qui nous écoutent, une grève c'est pas fait pour faire plaisir, ni pour ceux qui la font parce que c'est du revenu en moins également, c'est pas de tout repos, et ni pour les usagers. Mais évidemment, l'objectif d'une grève, c'est soit d'impacter l'activité d'une entreprise. Et dans ce cas-là, là, ce sera sans doute le cas, et c'était sans doute le cas précédemment avec Total. Mais est-ce que ça peut aller vers une grève générale qui aurait pour ambition d'impacter...
Ah, mais la question, je vous la pose, est-ce qu'on peut parler d'un jeudi noir, jeudi prochain?
Moi, j'y crois pas.
Vous y croyez pas?
Non, parce qu'aujourd'hui, pour qu'un conflit, un mouvement de grève s'installe dans la durée et soit généralisé, il faut plusieurs jours, il faut vraiment qu'il y ait... parler de soulèvement, mais voilà, il faut vraiment que ça dure plusieurs jours pour que tous les secteurs d'activité s'embarquent dans ce mouvement.
Alors, Jimmy Dalidou.
Et, je parlerai pas de grève générale, parce que les conditions objectives ne sont absolument pas
réunies. On n'en est pas là aujourd'hui, bien sûr.
Et même subjectifs ne sont absolument pas réunis. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faut comprendre une chose, c'est que, quelles que soient les grèves et les manifestations, encore une fois, c'est la même idée qui prend différentes formes sociales. Et l'idée de base, c'est l'idée de l'égalité sociale, l'idée de s'en sortir, l'idée, concrètement, quand on touche 1300 balles par mois et qu'on a un loyer qui prend la moitié de votre salaire, et qu'une fois que vous avez payé votre loyer, Vous savez pas comment vous allez.
Ça, c'est une réalité.
Et là, on est le 8 du mois. La plupart des Français qui nous écoutent, ils sont déjà dans le découvert. Ils vont déjà payer des agios.
Ils
sont
en
train de se dire, ils sont en train de se dire, il y a 20 jours. Là, ils sont en train de se dire, il y a 20 jours encore à tenir. Et comment je vais tenir les 20 jours?
Comment faisons-nous?
Voilà, comment on fait? Donc, et c'est la même idée qui revient dans toutes les luttes. Donc, c'est la même idée qui prend différentes formes sociales. Donc, à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas de réponse, cette idée prendra sans cesse des différentes formes sociales. C'est un mouvement dialectique, c'est la même idée.
Amine.
Qui prend différentes formes. Mais à un moment, ça va aboutir à des grèves d'ampleur, ce qu'on appelle des grèves générales, et pour les plus fortes, comme en 1944, des grèves, ce qu'on appelle des grèves insurrectionnelles. Mais là, on est dans des processus
autre
plus
chose,
mais en tout cas, des grèves.
44, c'était autre chose.
Oui, non, mais
l'état de
l'éthargie n'était pas le même. Alors,
mais les conditions sociales.
L'état de léthargie dans lequel on est aujourd'hui ne permettra pas d'arriver à un mouvement tel qu'on l'a pu le connaître dans les années 40. Mais
impossible.
Juste, il y a une chose qu'il faut quand même pointer du doigt, c'est les annonces de Madame Borne qui dit aux entreprises, notamment aux grands groupes, augmenter les salaires. C'est-à-dire que au lieu de le faire par la loi, elle le pourrait. Par ailleurs, il y a eu une proposition de loi, j'en ai déjà parlé ici, qui avait été faite par l'ANUPS d'augmenter le SMIC à 1 500 euros, qui aurait entraîné l'ensemble des salaires, on le sait très bien. Qui a voté contre? Le Rassemblement National, main dans la main avec la majorité relative du président de la République. Donc, c'est quand même étonnant comme discours que de dire aux grandes entreprises, je vous somme d'augmenter les salaires. Mais faisons-le par les textes, faisons-le par la loi, au lieu de laisser ensuite les salariés aller discuter pour revenir bredouille. Donc, Mme Borne, elle se moque du monde.
Alors, je reviendrai sur des éléments.
Donc, une loi qui demanderait aux entreprises d'augmenter les salaires.
On augmente le SMIC. On augmente le SMIC déjà pour commencer.
Non, pourquoi il faut augmenter les salaires? Parce que si vous augmentez les... Alors, d'abord, une chose, c'est que ce qu'il faut... les auditeurs doivent quand même... Il y a un élément qu'il faut leur dire. C'est que pour la seule année 2022, c'est plus de 150 milliards d'euros qui ont été accordés aux entreprises sous forme d'aide publique. Ça veut dire quoi? C'est qu'à un moment, vous avez des impôts qui sont payés. Vous payez vos impôts. À un moment, les impôts partent dans la caisse d'État. Et à un moment, sous forme de subventions, etc., cet argent est reversé aux entreprises. Plus de 157 milliards d'aides publiques. C'est-à-dire qu'en gros, le Français, il part travailler, il se fait chier tout le mois à travailler. À la fin du mois, il n'a pas de quoi bouffer.
Ouais.
Son argent qui part dans les impôts et à un moment dans la caisse de l'État est reversé dans les grosses entreprises. Et le pire, c'est que ces grosses entreprises, à un moment, une fois qu'ils récupèrent cet argent, ils font toujours plus de fric et ensuite ils exportent leurs profits qui vont planquer dans les paradis fiscaux. Mmh. Donc à un moment, on dit, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc soit ils augmentent les salaires, soit il faut qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait des conflits sociaux qui peuvent aboutir effectivement à une situation bien plus complexe.
Avant de marquer justement la courte pause, je voudrais qu'on parle, vous savez, de cette COP la 27 en Égypte justement qui se tient. Le chef de l'État Emmanuel Macron a assisté, on a d'ailleurs vu son discours. Alors moi, ma question, vous savez quoi, je disais tout à l'heure de façon un peu évidemment provocatrice, je disais qu'il y a la guerre en Ukraine, crise sociale, et la crise tout court, la crise énergétique, et finalement cette crise du climat, n'est-ce pas tout simplement la crise la plus importante à laquelle on va être heurté? Alors, on a du mal à trouver des solutions. Aujourd'hui, le sommet du climat, est-ce que il a pris des décisions qu'on devrait aujourd'hui, cette COP 27, Amine Sarr?
Le problème, c'est enfin les sommets comme ceux-là, ils sont comment dire le moment des comptes finalement. C'est le moment où on se retrouve, où on essaye d'impulser pour une année supplémentaire de nouvelles actions. C'est pas le sommet en lui-même qui est important. D'ailleurs, je pense qu'il en sortira pas forcément grand-chose. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on a fait entre le précédent sommet et celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, et franchement, il faut pas se jeter la pierre. Je pense qu'en France, on est quand même très très avant-gardiste hein, dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour la préservation de la biodiversité, etc. Le problème aujourd'hui, c'est quid des grands pollueurs, les États-Unis, la Chine, le Brésil, l'Inde, qui sont quasiment pas du tout, qui ne se sentent pas du tout concernés aujourd'hui. On l'a vu avec Trump qui avait carrément quitté la table de la COP. Donc Voilà, moi aujourd'hui, je suis assez perplexe. En Europe, on est globalement de bons élèves, même si on a dû beaucoup polluer pour se développer. Et c'est d'ailleurs c'est l'argument qui nous est opposé par les pays émergents qui nous disent vous, vous êtes, vous avez pollué, vous avez été parmi ceux qui ont le plus détruit la biodiversité, etc. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous voulez nous le reprocher ? Eh bien, oui, c'est un fait. Donc il faut que les pays du Nord qui se sont énormément enrichis, qui se sont énormément développés en polluant, doivent permettre à celles et ceux aujourd'hui, et notamment les pays en voie de développement, de pouvoir se développer. Et donc, il faut qu'il y ait de l'aide qui va vers du nord vers le sud.
On va parler de ces aides, justement. Vous allez développer davantage. Je donnerai la parole à Jimmy Delido. On marque juste la dernière pause et on se retrouve pour la dernière ligne droite. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et Les Informés, dernière ligne droite avec Amine Sarah, Les Informés aussi avec Jimmy Dalidou, les 19h21. Messieurs, alors, vous disiez justement Amine Sarah, concernant donc le fait que, comment dirais la COP27, la discussion entre le Nord et le Sud, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Bah, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, en l'état, si les grandes puissances n'embarquent pas dans le train de la réduction des gaz à effet de serre, n'embarquent pas dans le train du développement durable, de la préservation de la biodiversité, on aura beau faire tous les efforts du monde ici en Europe, ça n'aura pas l'effet escompté. Et la limitation du réchauffement climatique en deçà des 2 degrés ne sera pas possible dans les prochaines années, à l'horizon 2030-2050.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors je partirais d'un élément quand même, un cadre général qui est quand même que faut quand même rappeler que l'homme avec un grand H évidemment, l'être humain, est un produit de la nature. Faut arrêter de créer un clivage comme ça entre l'homme et la nature. L'homme, c'est le produit très développé de la matière.
Sauf que l'homme est en train de détruire la nature.
Oui, c'est pour ça que j'y arrive. Donc deuxièmement, il faut agir sur les consciences et sur la production, pas uniquement sur la conscience, sur les consciences et sur la production. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce qui va pas, c'est que le mode de production actuel, le mode de production, il ne va pas en fait. Il est défaillant. Il ne nous permet pas de résorber ce problème. Pourquoi ? Parce que lorsque vous voulez, c'est ce qu'on appelle l'accumulation du capital. C'est-à-dire que les grosses multinationales, quand ils produisent, leur base d'analyse, ce n'est pas les besoins de l'humanité. Et les besoins par rapport à la conservation de notre planète. Leur base d'analyse, c'est ce qu'on appelle le capital déjà amassé. Concrètement, vous avez un capital avancé, ça a produit un capital de retour qui va reproduire un autre capital. C'est ce qu'on appelle la reproduction du capital. Concrètement, pour faire simple, avec du fric, vous faites toujours plus de fric. Et c'est ça leur base d'analyse de leur base d'analyse. Donc, on peut pas demander. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'attendre, de quémander auprès des gouvernements. Je crois que les peuples doivent prendre en main, eux-mêmes en main, c'est ce sujet. Et on doit prendre en main ce sujet au niveau de la production d'abord, parce que c'est au niveau de la production que ça se passe. Et il faut qu'on passe à un mode de production collectivisé, un mode de production qui soit collectivisé et qui ferait que tout ce qu'on va produire sera propre, sera cohérent, rationnel, et là, on pourra... Il faut bien comprendre une chose. Je prends un exemple concret sur la couche d'ozone, pour bien comprendre là où on va. La couche d'ozone, elle se situe entre 15 et 25 kilomètres, à peu près. La couche d'ozone, le principal rôle de la couche d'ozone, c'est d'absorber les lumières ultraviolettes. 95% des éléments de la lumière ultraviolette est absorbé par la couche d'ozone. C'est ce qui fait qu'on peut vivre, en fait. Il y a eu, le trou de la couche d'ozone est mesuré en unité d'Ohmson. Si vous lisez vous tapez sur Google, unité d'Ohmson. Il y a tout un tas de recherches qui sont, il y a des études qui ont été faites. Bon, le trou dans l'hémisphère sud, le trou de la couche d'ozone s'élève à plus de 28 millions de kilomètres carrés. Ça veut dire qu'en fait, la couche d'ozone se détruit et on a besoin de gaz qui vont permettre à la couche d'ozone de se reconstruire. Le problème, c'est que la production actuelle fout en l'air le gaz qui permet la reconstitution de la couche d'ozone. Donc, à un moment, si on continue comme ça, dans quelques années, vous savez ce qui va se produire ? C'est qu'on va être malade, on aura des cancers, certains seront atteints de cécité. Pourquoi ? Parce que on n'aura rien fait. Et je pense pas que c'est ce qu'on veut pour nos enfants. Donc il faut agir sur la production. Et il faut encore une fois qu'on passe à un mode de production collectivisé. Parce que le mode de production capitaliste actuel ne nous permet pas de résorber ce problème. Parce que sa base d'analyse de départ n'est pas les besoins de l'humanité. C'est toujours faire plus de fric avec du fric qu'il a déjà investi.
Amin ça.
Ah, mais il a tout dit. C'est que en réalité on a tout misé sur l'industrialisation, sur la productivité, etc., au péril d'une planète qui nous rappelle qu'elle est à bout de souffle et que dans les prochaines années on va connaître des catastrophes en termes des catastrophes sanitaires notamment, etc. Et donc on le sait, le permafrost par exemple qui est en train de remonter à la surface et qui emprisonnait des tas de maladies est en train de et on va avoir des maladies du passé qui vont revenir avec ce dérèglement climatique. Et donc ce qu'il faut maintenant, c'est il y a qu'une solution. Il y en a pas des dizaines. C'est qu'il faut des moyens colossaux, des centaines de milliers de milliards pour permettre de sortir de cette logique destructrice.
Pour revenir sur ce qu'il disait, c'est qu'effectivement le problème qui se pose actuellement, concrètement, vous produisez une dizaine de marchandises. En fait, changer de mode de production, concrètement, ça veut pas dire l'iPhone 14. Vous aurez toujours un iPhone 14. En fait, concrètement, le problème, c'est que la valeur qui est générée, la somme totale de la valeur qui est générée par la production est immédiatement canalisée par la sphère spéculative. Elle est immédiatement canalisée par les bulles spéculatives. À un moment, quand vous produisez de la richesse et que cette richesse est à un moment canalisée par les marchés financiers d'une manière instantanée, et ben comment vous faites pour modifier la production qui vous permettrait de produire d'une manière plus saine? Donc à un moment, il faut être logique dans ce qu'on fait. Soit on produit correctement, soit on ne produit pas correctement. Mais quand vous produisez des richesses et que cette richesse est accaparée par une classe, une espèce de caste d'hommes toujours plus riches, bah, maman, il faut intervenir.
Eh ben, le débat continue, vous le savez, les 19h28 précisément. Si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est les informés. On n'aura pas le temps de parler de Vinci qui est convoqué justement pour les chantiers pour la Coupe du Monde au Qatar prochain, mais peut-être demain d'ailleurs. Aminsa, où en est-on concernant le soutien à Yanis qui a généré d'ailleurs, qui a drainé du monde dimanche dernier à la place de la République?
Ben écoutez, comme vous l'avez dit, c'était un mouvement qui avait commencé il y a quelques semaines seulement sur les réseaux sociaux, qui a été initié par aucune organisation, aucun parti ni aucun syndicat, qui était le fruit finalement d'une volonté citoyenne de plus de justice et de plus d'égalité et de plus de dignité. Et donc malgré un temps plutôt maussade et les peu de moyens qu'on a pu mettre en œuvre, on a réussi tout de même à être plusieurs centaines place de la République pour défendre la dignité et la justice pour Yanis et sa famille. Donc on est en attente du délibéré qui aura lieu demain. Et donc on espère que cette mobilisation a été entendue et que le magistrat en charge de l'affaire pourra demander en tout cas un complément d'enquête avant de donner ses conclusions et avant de fermer définitivement cette affaire. En tout cas, on le souhaite à la famille du petit Yanis.
Merci pour ces informations. Et on vient d'informer justement que le père du jeune Yanis, évidemment, sera chez Vanessa ce soir. Donc, à suivre, ne manquez pas ce rendez-vous chez Vanessa à partir de 21h. Merci à vous deux. Merci à Aminsa, élu sur la ville de la Courneuve.
Merci à Adil Farkan. Et à vous. Et merci aux auditeurs.
Représentant CGT, mais également auteur. Merci à la réalisation, à Anthony. Et aux nombreux auditeurs qui nous suivent chaque soir. Merci à vous. C'est surtout avec vous, justement. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. 20-21, c'est Bilal Edman. Vanessa à 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout, on ne lâche rien. Ciao!
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.